Bonjour chers auditeurs, sans oublier les élèves, bienvenue à 20 minutes d'histoire, votre émission historique et culturelle de Transistor, avec Charles Bruyot, étudiant en histoire moderne.
Bonjour.
Antoine Rivaud, étudiant en histoire moderne, moi-même, et Pascal Monlahuc, étudiant en histoire ancienne, qui a dû affronter des déserts brûlants et des vents contraires, en fait un changement d'horaire imprévu et qui ne sera pas ici pour cette émission.
Après le premier épisode sur les guerres de religion autour de Lyon, on remonte au temps de Luc de Noun. N'oubliez pas par ailleurs que vous pouvez gagner cette semaine deux albums du groupe Métropole, la nouvelle scène parisienne, en devinant le nom de notre invité et en l'envoyant à transistor@hotmail.fr.
Luc de Noun, parce que la ville de Lyon est une ville dynamique jusque dans notre 7e arrondissement, depuis le temps de la capitale des Gaules. Depuis 20 ans, l'archéologie urbaine donne un nouveau visage à l'antiquité lyonnaise. Le rôle exceptionnel du CNRS et de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP, y est pour beaucoup dans cette redécouverte des richesses de l'Antiquité. L'autre acteur essentiel, de concert avec ceux mentionnés précédemment, est le musée de la civilisation gallo-romaine de Lyon.
En ce moment, s'y tient l'exposition Post-Mortem, consacrée aux rites funéraires dans l'antique ville de Luc de Noun.
Cette exposition a par ailleurs reçu le label Exposition d'intérêt national, qui récompense chaque année les manifestations d'une grande qualité scientifique et d'un intérêt pédagogique élevé. Elle se tient actuellement au musée de la colline de Fourvière depuis le 27 novembre 2009 et jusqu'au 30 mai 2010. Le conservateur du musée archéologique de Fourvière, M. Hugues Savegueraz, a eu la gentillesse de nous recevoir au sein de l'exposition qu'il a en grande partie coordonnée. Charles Bruyot l'a interviewé exclusivement pour vous lors d'une visite le mercredi 27 janvier.
Cette exposition, il y a plusieurs parties. Si on regarde sur quoi elle s'appuie, donc il y a la première partie, l'exposition du corps et le cortège funéraire, qui sont des reconstitutions qui s'appuient sur des textes. Et en ce sens, on pourrait les faire un peu n'importe où, puisque ces textes sont les mêmes pour tout le monde et concernent en fait surtout l'Italie, pas tellement, voire pas du tout les provinces. Mais en fait, la partie peut-être la plus originale, c'est celle qui reconstitue un espace funéraire, puisque là, ces reconstitutions sont fondées sur des exemples bien précis qui ont été trouvés par les archéologues. Mais cet espace, il commence en fait par une reconstitution qui est une fiction. C'est une boutique où on pourrait trouver tous les objets nécessaires au rite funéraire. Alors c'est une fiction parce qu'on connaît ces boutiques ni par les textes ni par l'archéologie. La seule raison de cette reconstitution, c'est que quand on regarde les rites funéraires à l'époque romaine, ils mettent en jeu quantité d'objets, des objets de la vie quotidienne pour la plupart. Et donc cette diversité des objets fait que ça rend plausible l'existence d'une boutique qui pouvait exister à côté des tombes et dans lesquelles on pouvait se procurer tous les objets nécessaires au rite funéraire.
Luc de Noun n'était pas la ville ordonnée qu'on aurait pu croire avec l'image qu'on en a habituellement, mais davantage, notamment au niveau de la banlieue, un espace entre vie et mort.
Oui, en fait, la loi générale qu'on trouve à l'époque romaine, c'est-à-dire jamais de tombe à l'intérieur des villes, s'applique bien sûr à Lyon, hein, puisque vous savez, il y a une limite qui peut être matérialisée par l'enceinte quand elle existe. Mais c'est vrai que ce que les fouilles préventives récentes ont montré, c'est peut-être nuancer un peu l'image qu'on a en particulier avec Pompéi ou même les grandes voies autour de Rome, où l'essentiel des sépultures s'est concentré le long des voies. Hein, c'est l'image traditionnelle, le voyageur qui arrive dans la ville romaine découvre d'abord la ville des morts, ensuite les vivants. C'est vrai pour les grands monuments qui montraient la pérennité, les grandes familles, les grands mausolées, tout ça en effet se concentrait le long des voies. Mais en revanche, ce que l'archéologie a bien montré, c'est qu'il y a des concentrations de tombes qui sont complètement à l'écart de ces grandes voies, dans des zones un peu déshéritées. En fait, ces espaces funéraires, ces tombes, à la différence des grands monuments, ne devaient pas durer très très longtemps.
Est-ce que dans cette exposition, vous avez essayé de reconstruire le monde des morts, par-delà ça, le monde des vivants, la société romaine, dans son appréhension de la mort?
L'archéologie, donc, elle retrouve, disons, la part des objets qui s'est conservée. Alors c'est une part qui peut varier beaucoup, puisqu'il y a des objets très solides, comme de la pierre, la céramique. Il y a des objets qui se conservent dans les rites funéraires de manière un peu spéciale, c'est tout ce qui est brûlé, notamment sur les bûchers. La crémation fait qu'on va pouvoir avoir conservé des graines, des morceaux de pain, des choses comme ça. Donc il y a, je dirais, la part matérielle de la civilisation. Le but de cette exposition, qui est d'ailleurs, je dirais, tout à fait en phase avec l'archéologie d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment d'exhumer des objets, d'autant plus qu'à Lyon, ces objets liés aux tombes, ils sont extrêmement banals. Mais l'idée, c'est plutôt de retrouver ces objets, de retrouver dans quelle position ils ont été mis, pourquoi on les a mis là. Donc déjà, à partir de l'objet, retrouver le geste, et puis très modestement, à partir du geste, essayer de retrouver les mentalités. Mais là, on arrive vraiment aux limites de ce qu'on peut dire. Mais déjà, essayer de voir ou de montrer, par exemple, des choses assez curieuses, que même dans des tombes extrêmement riches, comme le mausolée qu'on voit là, eh bien, les cendres du défunt pouvaient être conservées dans un vase en terre cuite tout à fait banal, qui était le même que celui qu'on trouvait dans les cuisines. Donc, une idée du luxe assez relative. Les très grands bûchers du 1er siècle à Lyon, qu'est-ce qu'on voit? De la vaisselle de table qu'on pouvait trouver dans n'importe quelle maison, des offrandes alimentaires et quelques objets personnels du défunt, mais pas des choses spécialement riches. Et là, on s'aperçoit que vraiment, ce qui est important, c'est le geste, c'est le rituel. Mais, et cette austérité, en fait, de la tombe romaine, alors est-ce que c'est propre à Lyon? C'est difficile à dire, mais on le retrouve en tout cas à Lyon, dans le cas des monuments en pierre, où les portraits funéraires sont extrêmement rares. Ça, c'est quelque chose d'assez propre à Lyon. Si vous allez dans d'autres régions en France, vous allez voir, mettons, vers Sens, dans le centre de la France, dans l'Est, dans la région d'Aquitaine, des tombes où très souvent le défunt est représenté, soit en portrait, soit dans l'exercice de son métier. Alors à Lyon, on n'a jamais ça. Les portraits funéraires sont rarissimes. Il y a vraiment une sobriété de la tombe, mais en revanche, il y a des inscriptions d'excellente qualité.
Nous sommes devant ici une autre reconstitution devant laquelle on voit un amoncellement de bûches de bois destinées à un bûcher et par-dessus lesquelles on trouve le lit du défunt et de nombreux fruits et offrandes.
Mais en fait, c'est peut-être l'élément le plus à la fois spectaculaire et intéressant de cette exposition, c'est cette reconstitution, parce que vraiment elle cristallise une part de recherche très importante qui s'est développée depuis plusieurs années autour de ces bûchers dont les archéologues retrouvent bien sûr les restes calcinés, des restes dans des fosses calcinées, et donc ils étudient très patiemment les restes à la fois de tous les objets qui étaient déposés sur le bûcher et les restes bien sûr du défunt lui-même qui renseignent sur, qui peuvent donner des informations, savoir si c'était un homme, une femme, des indications sur son âge, s'il y avait plusieurs personnes, etc. On a essayé de représenter ici, il y a le bûcher lui-même et une table à côté qui est dressée sur laquelle on retrouve les mêmes aliments, les mêmes céramiques. C'est qu'en fait l'archéologie et les textes sont d'accord sur un point, c'est qu'il y avait un rite très important dans ces funérailles, qui était le repas partagé. L'archéologie en montre des traces sous la forme de vases brisés volontairement, et les textes l'indiquent aussi qu'en fait, le jour de l'enterrement, mais aussi le jour de la fête des morts et le jour de l'anniversaire du décès, on venait sur la nécropole même partager plus ou moins symboliquement un repas avec le défunt. Et c'est ce qui explique qu'on va retrouver les mêmes vases, les mêmes nourritures, à la fois sur cette table dressée à côté du bûcher et sur le bûcher lui-même. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a représenté là un bûcher tel qu'il pouvait être dressé au 1er siècle, puisqu'en gros, aux deux premiers siècles, c'est le rite dominant. Au 3e siècle, on voit apparaître l'inhumation à part égale. Et puis au 4e siècle, les bûchers ont disparu.
D'accord, justement, qu'est-ce qu'on sait de ce passage entre incinération et inhumation? Qui a une marque lors du passage à une époque chrétienne?
Alors en fait, jadis, on pensait que justement ce passage de la crémation à l'inhumation était lié à l'émergence de la religion chrétienne. Et puis on s'est aperçu depuis longtemps qu'il n'en est rien, que c'est bien plus ancien, puisque ce passage se fait à peu près dans le courant du 2e siècle. Alors, on n'a pas d'explication, il semblerait que ça soit les Lyonnais et les provinciaux en général, aient suivi la mode des empereurs. Mais ça fait que reporter le problème. Pourquoi à Rome, on a choisi de passer de la crémation à l'inhumation? En fait, c'est pas très clair. Donc en fait, au 3e siècle, on va trouver les deux rites, avec en particulier le développement des sarcophages. Et au 4e siècle, la crémation a totalement disparu. Donc les gens sont inhumés. Là aussi, cette inhumation, elle peut être soit modeste, en pleine terre, comme on dit, soit dans un cercueil, soit alors dans un sarcophage. Et lorsqu'on a les premiers témoins des épitaphes chrétiennes, en fait, les chrétiens ont adopté ce mode de l'inhumation.
Donc les reconstitutions sont très précises. On voit donc les différents aliments qui étaient utilisés, le pain, les noix, les raisins, les pains. Vous avez eu la volonté d'inscrire votre exposition dans l'interdisciplinarité en lien avec l'ethnologie notamment?
Non, ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'en fait cette exposition, elle est faite, elle est coproduite avec l'INRAP, l'Institut National de Recherche d'Archéologie Préventive. Donc elle est vraiment le fruit du travail des archéologues à Lyon, des fouilles préventives. Et, alors eux-mêmes, pour tout ce qui est archéologie funéraire, ont bien sûr regardé, se sont documentés du côté des pays où l'incinération est encore pratiquée. notamment en Inde, et on voit qu'en fait, il y a beaucoup de points communs. Alors je dirais que c'est une information de type ethnologique ou ethnographique, non seulement pour des questions pratiques, qui peuvent aller la quantité de bois qu'il faut pour incinérer un corps, le temps que peut durer la cérémonie, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des gestes assez proches, qui sont par exemple la mutilation des objets qui désormais vont appartenir aux morts, ou les lustrations, les purifications. Donc il y a vraiment un certain nombre de gestes communs qu'on peut retrouver à partir de l'archéologie, ou du moins imaginer à partir de l'archéologie, et qu'on va retrouver encore en vigueur, si j'ose dire, dans les pays où l'incinération est pratiquée.
L'exposition est due en grande partie aux recherches préventives dans Lyon, lors de, notamment de travaux du métro dans les années 70. Est-ce que l'archéologie urbaine a fondamentalement évolué ces dernières années, notamment l'archéologie préventive par rapport aux constructions urbaines ?
Oui, je dirais que le déclic, en fait, on dit qu'à Lyon, le déclic, c'était le creusement, le percement de la première ligne de métro, la ligne A, qui a vraiment pris en écharpe la presqu'île, donc de Perrache jusqu'à Bellecour, dans un secteur qui est connu pour avoir abrité jadis les plus belles maisons romaines. Et c'est vrai qu'à l'époque, certains n'ont pas hésité à dire que c'était un massacre archéologique. Parce qu'en fait, il n'y avait ni les structures, ni les personnes, ni l'organisation nécessaire pour faire face à l'ampleur des destructions. On est passé donc d'une archéologie de sauvetage qui tentait d'intervenir après travaux à une archéologie préventive dont le but c'était justement d'essayer de faire des fouilles avant travaux, et qu'en gros ce soit les archéologues qui procèdent eux-mêmes aux destructions, de manière à ce qu'ils puissent voir ce qui est détruit, enregistrer ce qui mérite d'être conservé et garder les objets qui méritent d'être gardés.
Donc passer devant des épitaphes et des inscriptions, on est à quelle époque ?
Alors ici on se situe en plein 2e siècle. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on voit donc des blocs de pierre qui ont la forme d'un autel, c'est-à-dire un rectangle, un parallélépipède de pierre avec des moulures en haut et en bas, et qui portent une inscription, l'épitaphe, qui est gravée donc avec des lettres de très bonne qualité qui ont été faites dans un matériau extrêmement dur. Alors, des monuments de ce type, on en a beaucoup dans la collection lyonnaise, puisqu'on a à peu près, sur environ 1000 inscriptions, on a près de 700 épitaphes. Mais pour la plupart, pour pas dire l'essentiel de ces blocs n'ont pas été retrouvés dans leur situation d'origine dans une nécropole d'époque romaine, mais à la fin de l'Antiquité, ils ont été récupérés, les tombes ont été démontées, les blocs ont été retaillés, et ils ont resservi soit pour d'autres tombeaux, soit pour des constructions comme des ponts, des églises, des maisons. Et c'est lorsqu'on a démoli plus tard, au 18e, 19e siècle, ces constructions, qu'on a récupéré ces blocs qui avaient donc vécu une deuxième fois. Or là, les trois qu'on voit ici, c'est exceptionnel parce qu'ils ont été trouvés dans les années 90 et ils étaient encore en place, si bien que, et c'est très rare, on peut associer l'autel qui porte l'inscription funéraire et le bloc qui était dessous, dans lequel il y avait une petite niche qui contenait les cendres du défunt. Donc c'est les rares exemples de tombes complètes qu'on ait à Lyon, et on voit très bien que, on a ce contraste entre la petite loge qui contenait les cendres du défunt, et pour certains, ces cendres, certaines étaient contenues dans de simples pots en terre cuite, et en revanche, le monument lui-même, c'est quelque chose d'assez imposant et d'assez luxueux.
Et justement, dans cette deuxième vie, pendant le Moyen-Âge et la Renaissance de ces blocs de pierre, vous avez contribué au catalogue d'exposition en expliquant ce qu'on devait aux antiquaires, notamment Jacob Spon, dans la découverte des rites funéraires romains.
Oui, en fait, pendant très longtemps, donc les archéologues, les historiens romains n'ont connu l'archéologie funéraire que par les inscriptions, parce que beaucoup de ces inscriptions, en particulier sur la colline de Fourvière, restaient visibles. Et donc il y a un chapitre qui s'appelle « Un musée en plein air », parce que ça devait ressembler un peu à ça à la fin du Moyen-Âge. Non seulement dans les constructions païennes, il y avait beaucoup d'éléments qui restaient visibles, mais même dans les églises, dans les murs des églises, il y a des inscriptions qui avaient été laissées volontairement visibles, jusque même dans les églises, puisque on a, dans l'église Saint-Irénée, on avait un support bénitier qui était constitué par un autel avec un représentant, même une femme, en train de sacrifier. Donc, très tôt, il y a eu les premiers inventaires de ces inscriptions, et puis il y a eu quelqu'un comme Jacob Spon, donc, qui a été en fait un précurseur, parce qu'il est allé un peu au-delà, il a fait des observations sur les tombes elles-mêmes, il a voyagé également, donc il est allé à Rome, en Grèce, et il a pu, à travers ses voyages, voir des exemples de tombes et interpréter un certain nombre de découvertes lyonnaises. C'est pratiquement la première fois qu'on allait au-delà de la simple étude, soit livresque à partir des textes antiques, soit épigraphique. Mais enfin, il a vraiment fallu attendre l'archéologie moderne, récente, à partir des années 1950, pour qu'il y ait vraiment, qu'ils se mettent en place, en particulier les études anthropologiques, c'est-à-dire étudier les restes des défunts eux-mêmes, qui sont restés longtemps en dehors du champ scientifique. On voit par exemple fin 19e, lorsqu'il y a eu des grandes découvertes de nécropoles sur la colline de Fourvière, dans le quartier de Trion, il y a des études extrêmement précises d'épigraphie sur les inscriptions, les céramiques associées, etc. Mais les restes des défunts, on n'en parle pas, ça reste quelque chose qui est relativement tabou.
Dans cette appréhension des monuments funéraires tout au long donc de la Renaissance jusqu'à des temps récents, il y a eu une controverse dont vous parlez sur une formule précise sous Basquiat.
Ah oui.
Qu'est-ce que vous pouvez...
Oui, ça c'est en fait une caractéristique des monuments funéraires lyonnais qu'on retrouve ailleurs, notamment en Italie du Nord et puis aussi du côté des provinces danubiennes. Mais simplement à Lyon, c'est très fréquent, c'est qu'on voit représenté à partir du IIe siècle sur beaucoup de tombeaux lyonnais un petit instrument, enfin qui est gravé, qui est en fait une sorte d'herminette, donc un outil qui avait une lame courte et un manche court qui devait servir plutôt pour le travail du bois, ce qu'on appelle une assia en latin. Non seulement on a cette représentation, mais l'épitaphe se termine très souvent par la formule et ce monument a été dédié sous l'assia, ou du moins les personnes qui ont pris en charge la construction du monument l'ont dédié sous l'assia. Il se trouve qu'en fait, il n'y a aucune explication, il n'y a aucun texte qui en parle. Donc là, depuis longtemps, les archéologues, les historiens ont été confrontés à ces représentations, à ces formules évidemment très très brèves, et ça a donné lieu à de multiples interprétations possibles, puisque dans un livre d'histoire à la fin du 19e, un auteur recensait, je ne sais plus de 50 explications différentes. La plus simple avait été d'imaginer que c'était l'outil qui servait à creuser la tombe, et on disait que c'était ceux qui avaient adopté l'inhumation par rapport à l'incinération. Et puis là, on a de beaux contre-exemples, puisqu'on a cette assia et la formule portée sur ces autels qui recouvrent un monument dans lequel il y a les cendres des défunts. Donc c'est pas ça. Certains ont imaginé que ça pouvait être un outil qui servait à tailler la pierre, mais là encore, c'est pas certain, ça ressemble plus en effet à un outil de charpentier. Certains ont pensé que ça pouvait être le signe que le défunt avait adhéré à une corporation qui prenait en charge les frais de son enterrement après sa mort. Mais ça recouvre tellement de diversité sociale que ça paraît peu probable. Ça fait qu'aujourd'hui, on reste un peu dans l'incertitude. Alors, on a progressé quand même parce qu'on voit que l'assia est parfois figurée sur des tombeaux qui ont été faits du vivant du défunt. Donc on voit que c'est quelque chose qui intervient très tôt. Ça pourrait être la marque de la consécration de la pierre, en disant, voilà, cette pierre a été choisie pour faire un tombeau, et ça serait... mais il n'est pas impossible qu'en fait, cet outil ne joue pas un rôle pratique, mais plus un rôle symbolique dans les rites funéraires. Mais c'est vrai que, faute de texte, ça nous échappe.
Nous vous laissons profiter de la deuxième partie de l'interview.